Bonjour et bienvenue dans cette émission du 16 septembre 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à mes donateurs et abonnés, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Au menu aujourd'hui, une émission sur le thème de Bruno qui rit et Thierry qui pleure, ou plus exactement de la France entière qui continue de pleurer et malheureusement avec de bonnes raisons pour le faire. Et notamment la présence à sa tête du tyran qui sévit depuis 7 ans maintenant, avec ce besoin irrépressible en effet de se moquer du monde. Donc il estime publiquement, mais vous savez que sa parole ne vaut que comme indice qu'elle n'a aucune valeur à ses propres yeux, et donc que tous ceux qui portent crédit à ce qu'il dit sont encore totalement dans la mécompréhension de la réalité des choses. Emmanuel Macron, dis-je, a estimé que le peuple souverain qui s'exprime au suffrage doit toujours être pris en compte. Faut-il rappeler au passage qu'en 2019, lors d'un débat, il estimait que la réalité, bien sûr, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il y avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, professait-il, mais on sait ce que ça vaut, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. Oui, ça fait longtemps qu'il n'assume plus grand-chose, à part le fait de n'avoir aucune allégeance de vérité et de loyauté envers qui ou quoi que ce soit. Alors Bruno qui rit, eh ben oui, parce qu'il quitte le ministère de l'économie, Alerte Info, et en ayant au passage donné un pot de départ absolument inoubliable pour se faire acclamer par la grande troupe des traîtres à la nation qui occupe désormais les hauts postes de l'administration publique. Alors Nicolas Dupont-Aignan, qui au passage a été victime d'une opération lamentable pour lui faire perdre son siège de député, une magouille de la pire espèce politicienne dans laquelle ont trempé un certain nombre de partis à l'instigation bien sûr d'Emmanuel Macron, a quant à lui relevé « Avez-vous vu la fiesta de Monsieur le maire qui ose organiser sur des fonds publics un cocktail réunissant plus de 1500 personnes alors qu'il a mis la France en faillite et toute l'oligarchie parisienne va l'applaudir alors qu'il a fait 1000 milliards de dettes ?» Oui, le thème que la fin de l'abondance est présente mais uniquement pour les gueux s'est laissé observer depuis un certain temps. Alors, un certain nombre de rebonds sur le côté inoubliable du départ de Bruno Le Maire, Idrissa Berkane, 1000 milliards de renflements, ça s'oublie pas, c'est sûr. Et puis, le fond de l'affaire, c'est la croissance, l'explosion, que dis-je, de la dette publique française au cours des années Macron et notamment sous le magistère à l'économie de Bruno Le Maire est en effet totalement inoubliable. Et ces gens sont nés avant la honte. Effectivement, ils n'ont ni vergogne, ni scrupules, ni conscience. C'est le sommet du cynisme. Nicolas Vidal relève, au lieu de se planquer sous une couette et de ne plus en sortir, ces gens sont totalement insensibles à la honte avec 3200 milliards d'euros de dettes dans le cornet. C'est absolument prodigieux. Il faut dire qu'ils ont été bien servis par la presse prostituée, comme Amélie Ismaili le souligne, le journalisme français, Le Parisien, décrivant Bruno Le Maire au moment de son départ, un bourreau de travail qui a besoin de peu d'heures de sommeil après son septennat à Bercy. Bah heureusement qu'il a peu besoin de sommeil, parce qu'il avait besoin de sommeil, on se demande ce qu'il serait arrivé à la France en cours de route. Mais le fond de l'affaire, je cite énormément Paul-Antoine Martin, dont le livre « Le clan des seigneurs » est une référence absolue, la caste d'État bien sûr se moque de la France, elle exige le statu quo, c'est-à-dire que rien ne bouge, même s'il y a une détestation généralisée de la classe politique et de la Macronie en particulier. Et Paul-Antoine Martin, bien sûr, précise, c'est ça l'archétype du haut fonctionnaire typique à la française, le seigneur, entre guillemets, seigneur de la corruption, du cynisme, de la bêtise, de l'obscénité, qui vit sur le dos de la bête France. Il se la joue humble et la main sur le cœur, alors qu'en réalité, il n'est qu'arrogance, condescendance, privilège, incompétence et mensonge. Ces individus existent parce qu'ils sont entourés d'une foule d'opportunistes et d'arrivistes qui les flattent pour un poste. La France se meurt de ceux qui lui prennent beaucoup plus qu'ils ne lui donnent. La France est moquée partout dans le monde pour l'ultra-prétention de ces individus. Tant qu'ils tiendront le pouvoir, la France sera saignée par ces prétendus seigneurs. Ils prendront tout et ne laisseront rien. Alors Bruno Le Maire, bien sûr, tant qu'à faire, s'est fendu d'un commentaire de Despard pour nous dire la fierté qu'il a eue de nous avoir servi pendant 7 ans, enfin de s'être servi ainsi que la caste au pouvoir à notre détriment. 7 ans, ça fait effectivement un sacré bail pour une catastrophe pareille, mais comme le souligne avec sa pertinence habituelle Péonia, ce qui est intéressant dans le post de Bruno Le Maire, ce sont les commentaires, meilleur baromètre de popularité, et effectivement ça vaut le détour, parce que ça montre à quel point, comme le professe Michel Maffezoli depuis longtemps, la sagesse populaire n'est pas dupe. Et les gens sont tout à fait conscients de la crapulerie terminale de ces individus. Alexis Haupt, philosophe à son habitude et grand bien lui en fait et nous en fasse. Avant, on pouvait avoir des doutes sur l'honnêteté de ceux qui nous dirigent. Désormais, le doute n'est plus permis. Ce sont des menteurs professionnels, des traîtres à la nation, voire des gens très dangereux. En témoigne la période Covid et ses crises. François Tarin, que je remercie de ses commentaires toujours pertinents, lui relève que Bruno Le Maire a de quoi en effet être très satisfait. Sa vraie mission, il a parfaitement rempli son contrat, c'était d'achever la faillite de la France pour la vendre à la découpe à des fonds d'investissement entre guillemets américains. En réalité, ils n'ont aucune patrie, et la soumettre entièrement à l'URSS, c'est-à-dire cette structure effectivement moitié fasciste, moitié bolchevique, mais cela va fort bien ensemble, qui domine actuellement l'Europe tout entière. Et en rappelant bien sûr au passage qu'il s'agit réellement d'un détournement de fonds à grande échelle, puisque les 500 plus grandes fortunes de France, elles, ont cumulé en 2023 une fortune sans précédent de 1170 milliards d'euros, c'est-à-dire 45% du PIB, alors qu'en 2009, ce montant n'était que de 194 milliards, représentant 10% du PIB. Hein, entendons, 10% du PIB en 2009, aujourd'hui 45% du PIB. Et ce que cela veut dire, bien sûr, c'est que le siphon sur les finances publiques, mais également sur l'économie réelle et l'épargne et les revenus des ménages a parfaitement fonctionné, conformément au plan déjà rendu public par Attali. Il s'agit de paupériser la classe moyenne, concentrer les richesses dans quelques mains et puis étendre de manière massive la caste des précarisés qui sont prêts à tout pour survivre. Le réveil sera douloureux pour la France et pour les Français, a-t-il indiqué, dénonçant l'hypocrisie française des somnambules qui proposent de dépenser toujours plus d'argent public, c'est-à-dire ce qu'il a fait et rien d'autre pendant les 7 années qu'ils l'ont vu diriger le ministère des Finances et de l'Économie de ce pays. Et voyez la magnifique inversion accusatoire, c'est-à-dire que le plan crapuleux et destructeur auquel il s'est livré pendant toutes ces années, au moment de partir, il dénonce ceux qui auraient une telle intention à l'esprit, et nous sommes là au cœur de la perversité gouvernementale et institutionnelle. Eh bien, un malheur n'arrivant jamais seul, il se trouve qu'alors que la France perd ce Stradivarius de la finance et des renflements bruns, la Suisse va en hériter puisque l'université de Lausanne a eu le bon goût de l'inviter à venir enseigner désormais dans le cadre de programmes universitaires. On rappelle au passage que cette université avait accordé un doctorat honoris causa à Benito Mussolini, qui est encore valide. Donc là encore, il y a des atavismes et des antécédents dans la crapulerie académique. Mais on se demande évidemment ce que Bruno Le Maire va bien pouvoir enseigner, venir enseigner, si ce n'est comment mettre un État en faillite. Et le grand commentateur de l'actualité devant l'éternel Slobodan Despot, dans une des dernières émissions valables de la radio-télévision suisse, c'est une émission humoristique, a pondu une petite chronique dont il a le secret, dont je vous laisse prendre connaissance.
Slobodan Despot, de quoi vous nous parlez aujourd'hui ?
Alors, je vais vous parler de la grande nouvelle de cet été, qui était le recyclage professionnel de Monsieur Bruno Le Maire.
Ah oui, intéressant. Ah oui.
Alors comme vous le savez, monsieur Le Maire est une des personnalités les plus éminentes de la vie publique française. En tout cas, en jugé par la place qu'ont accordé les médias français à son pot de départ. Ils n'ont jamais autant parlé que lorsqu'il a fait son pot de départ. Et monsieur Le Maire était jusqu'ici, je vous le rappelle quand même, le ministre français de l'économie et des finances. Et que va-t-il faire maintenant ? Eh bien, au creux de l'été, les journaux suisses, certains journaux suisses, ont comblé le vide de leurs colonnes avec des spéculations sur la venue de monsieur Le Maire en Suisse. Non comme ministre, mais comme professeur dans telle université, voire à l'EPFL, selon plusieurs sources recoupées par le Canard enchaîné. Bon. Les chaires académiques sont devenues le placard des dirigeants politiques. et de même que la communication institutionnelle est le cimetière des carrières de journalistes. La question est donc, est presque futile, mais tout de même, que viendrait-il nous enseigner ?
Oui, qu'est-ce qu'il a fait ?
Qu'est-ce qu'il pourrait nous enseigner ?
Exactement.
Voyons ses états de service. Même le monde qui ne vit plus que pour passer la pommade au pouvoir qui le nourrit, relève à propos du bilan de M. Le Maire que le tableau est rude. Je cite, hein. Le tableau est rude. Et le site Capital, qui est une référence, parle de dérapage des finances publiques et de crise en cascade du début à la fin de son ministère. Cela n'a pas empêché M. Le Maire d'annoncer qu'il avait, je cite, « sauvé l'économie française ». Avoir l'inflation colossale de la dette sous son règne, il a dû confondre la bouée de sauvetage avec une enclume. Ce qui a fait dire à un député écolo « et moi j'ai traversé l'Atlantique à la nage ». Tout ceci sont des citations. Mais M. Le Maire est surtout célèbre pour la prédiction solennelle qu'il fit en mars 2022, au début de la guerre en Ukraine, « nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe en à peine quelques semaines ». Ajoutant que le rapport de force économique et financier est totalement en faveur de l'Union européenne, qui est en train de découvrir sa puissance économique. Depuis sa prophétie, l'économie russe a connu la plus forte croissance depuis des décennies, et l'effet des sanctions, boomerang, a effectivement fait découvrir à l'Union européenne sa puissance économique, comme il le dit, mais sous un angle inattendu. Volkswagen menace justement ces jours-ci de fermer ses usines en Allemagne. C'est vrai que dans un pays aussi pingre et frileux que la Suisse, avec sa dette presque nulle, le professeur Le Maire est absolument indispensable.
Oui, oui.
Pour secouer le cocotier. Pour repenser les fondamentaux. Oui. Et encanailler un peu ces assemblées de petits comptables. Oui. Monsieur Le Maire est décidément l'homme de la situation pour enseigner l'économie 2.0. L'économie rêvée par le forum de Davos. L'économie de la dépossession joyeuse où vous n'aurez rien et serez heureux. Avec les disciples qu'il formera en Suisse, notre pays sera sûr d'atteindre tous les objectifs de prolétarisation de l'agenda 2030. Mais Monsieur Le Maire a plus d'une corde à son arc. Romancier chez Gallimard, il pourrait tenir un atelier d'écriture pour les ingénieurs à l'EPFL. Ou enseigner l'anatomie festive. Ou encore les langues vivantes, si j'ose dire. À moins qu'on lui crée en première mondiale une chaire d'astrologie géopolitique. C'est, on le voit, un pédagogue aux ressources infinies, mais il n'y a pas de raison que la Suisse s'approprie sans contrepartie les meilleurs esprits des pays voisins. Je suis convaincu que notre pays pourrait offrir à la France un certain nombre de ministres professeurs de capacités destructives équivalentes. Je vous laisse mettre les noms.
Merci, Slobodan Despot.
Car bien sûr, la cruelle vérité, ça n'est pas un scoop, cela fait des mois et des années qu'on le sait, et que les médias indépendants, nous, faisons le travail d'informer la population à ce sujet, il y a un projet manifeste, délibéré de paupérisation de la société, et voyez par exemple l'ancien directeur d'EDF, a balancé la vérité en révélant il n'y a aucune raison justifiant l'augmentation des tarifs d'électricité ces 10 dernières années. Et Dieu sait s'ils ont augmenté et Dieu sait si l'impact sur les finances des ménages est particulièrement lourd. La France est 100% autonome sur le plan de la production électrique et même exportatrice. Mais précisément, il s'agit de faire couler les ménages et la nation. Certains journalistes se réveillent, Cache Investigation, paraît-il, est en train de préparer une émission sur les consultants de McKinsey et la manière dont ils se sont infiltrés jusqu'au cœur du pouvoir en France. Bravo, grande découverte, ça fait quand même un certain nombre de mois et d'années qu'on est au courant de ce problème fondamental qui aurait dû conduire à une enquête parlementaire, qui aurait dû conduire à des enquêtes de justice rapides, car on est carrément dans un cas de collusion, voire de corruption au sommet de l'État. Mais bon, on sait qu'aujourd'hui, la macronerie n'est plus qu'une crapulerie à vaste échelle. Il y a aussi, bien sûr, l'affaire Colère, le scandale qui menace Macron. Une rediffusion d'un complément d'enquête a, semble-t-il, été interdite, donc on peut encore trouver le documentaire en question. Rappelons que Alexis Colère, qui est impliqué dans MSC, une grande compagnie maritime italo-suisso-israélienne, qui a touché des milliards de financements publics, mais a également été découverte comme étant un des principaux transporteurs de cocaïne, ce qui, incidemment, peut avoir certaines conséquences jusqu'au sommet de l'État français. C'est bien sûr à sa capacité à protéger les plus faibles qu'on juge la valeur d'un pays et d'une société. Et de ce point de vue-là, bien sûr, c'est particulièrement désastreux en France. Après l'hôpital public, la situation des EHPAD continue de se dégrader fortement. Des maires poursuivent l'État. Et donc, des gens dont on prélève toutes les économies sans être capable d'assurer un service digne, se retrouvent au soir de leur vie encore otages d'une caste politique et administrative qui ne cesse de dépouiller la population. Alors cela dit, rendons justice à McKinsey. Effectivement, on peut critiquer leur emprise mafieuse sur nos États et l'idéologie désastreuse qui les anime, mais enfin, ils font quand même un sacré boulot. Et je remercie Yva Masson d'avoir fait un petit montage en montrant à quel point les modalités de langage, alors oui, c'est toujours les mêmes, hein, on recycle les mêmes, et du copier-coller, évidemment, ne justifie pas des heures de travail à hauteur de millions d'heures facturées, mais toujours est-il qu'il est intéressant d'écouter les modalités de langage en question dans la bouche des récents premiers ministres qui se sont succédés, pour notre plus grand malheur, à la tête de la France.
Moi, je viens du gaullisme social.
Je suis un gaulliste social.
Je me réclame le général de Gaulle.
Bonsoir, monsieur le Premier ministre.
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 Votre première interview en tant que Premier ministre.
Cette majorité, elle dépasse la gauche et la droite.
Vous avez dans le gouvernement, effectivement, des personnes qui ont une sensibilité de droite. Vous avez des personnalités qui ont une sensibilité de gauche.
Des personnalités qui viennent de la gauche, du centre, de la droite.
Ce ne sera pas seulement un gouvernement de droite.
Quel
est le critère ? Oui, des gens de gauche.
Qui partagent cet esprit de refus du sectarisme.
Le sectarisme est une preuve de faiblesse. Donc il faut ouvrir la table à tous ceux qui le voudront.
Ma méthode, c'est de dire la vérité.
Il faut dire la vérité.
Être lucide sur le constat.
Il faut être lucide.
Y compris quand c'est difficile.
Je dirai la vérité, même si elle est difficile. Je le dis avec beaucoup d'humilité.
Avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité.
Le gouvernement sera rassembleur de compétences.
Réunir autour de la même table des hommes et des femmes qui ont des compétences.
Choisies parce qu'elles sont compétentes.
À la recherche de solutions.
Chercher des solutions.
Je veux qu'on trouve les bonnes solutions.
Proposer des solutions.
Trouver des solutions aux problèmes qui préoccupent les Français.
Tout ne peut pas se décider depuis Paris.
Les bonnes idées, elles ne viennent pas toujours d'en haut.
Depuis Paris.
On les trouve sur le terrain.
Je crois aux territoires.
Sur le terrain.
Les territoires.
Prendre en compte les partenaires sociaux.
Les partenaires sociaux dans les territoires.
Les syndicats.
En associant les organisations syndicales.
Et puis les élus locaux. Les élus locaux.
Les élus locaux.
Les élus locaux qui ont une grande partie des solutions.
Avant de donner les solutions, je souhaite que l'on en discute.
Il y aura évidemment consultation et discussion.
Des concertations, des discussions.
L'importance du dialogue social.
Avec les partenaires sociaux.
Respecter les partenaires sociaux.
Moi, je respecte beaucoup les oppositions.
Je respecterai toutes les forces politiques.
J'ai commencé à appeler des chefs de groupes politiques, y compris de l'opposition.
Moi, j'ai besoin de discuter avec tous les groupes politiques.
Derrière les représentants des oppositions, c'est des voix de millions de Français qui s'expriment.
11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement National.
Alors, pourquoi est-il particulièrement intéressant de connaître ce que ce montage révèle ? Eh bien, c'est le fait que nous serons, je pense, tous d'accord que ces paroles proférées avec sincérité par des gens honnêtes et ayant réellement à cœur le bien commun, ma foi, pourraient être engageantes. Nous pourrions avoir envie de leur prêter foi et d'avoir confiance dans les personnes qui les profèrent. Après tout, l'idée d'ouvrir un vaste dialogue entre gens de sensibilités politiques différentes, en mobilisant les territoires et les sagesses des différentes régions pour arriver à des projets qui soient utiles à la collectivité, qui, de bonne foi, pourrait s'opposer à une idée aussi, en apparence, vertueuse que celle-ci. Mais ce qu'il faut évidemment comprendre, c'est que les personnes dont il s'agit n'ont jamais eu la moindre sincérité par rapport au discours que nous venons d'entendre. Il n'y a qu'à voir la réalité de la manière dont ils traitent la vraie opposition, la vraie dissidence, celle qui existe dans la société réelle, et la violence absolument aveugle, brutale, diabolique, dont ils font preuve à l'égard de la population. Et donc, il est essentiel que nous nous formions, que nous nous outillions à savoir décoder ces procédés, simplement pour pouvoir nous abstraire de l'hypnose que cela génère. Et effectivement, le génie, car il en est un, des boîtes comme McKinsey, c'est d'être tellement fins connaisseurs de l'ingénierie sociale qu'ils sont capables de produire des modalités de langage aptes à embobiner la plupart des gens. Donc il y a réellement une pédagogie de la malveillance et de la perversité dans laquelle nous sommes actuellement engagés et dont dépendra in fine le fait que nous puissions nous extraire de cette emprise et ne plus laisser des gens aussi mal intentionnés, aussi cyniques, aussi sans scrupules et sans vergogne continuer à détenir le moindre pouvoir délégué par la collectivité. Alors il y a une autre émission que je me permets de vous citer au passage, car elle est diablement intéressante, c'est le récent passage de Juan Branco au micro de la chaîne Thinkerview. Alors je n'aime pas beaucoup Thinkerview, parce que je trouve ces animateurs extrêmement agressifs et vraiment ancrés dans une bien-pensance qui ne rend pas service à l'intérêt du propos que livrent leurs invités. Mais en ce qui concerne Juan Branco, ça s'est plutôt transformé en avantage, car poussé dans ses derniers retranchements, il a effectivement particulièrement bien livré la marchandise. Donc si le sujet vous intéresse, et il a couvert de manière très large tout un ensemble de réalités dont on parle peu dans les médias, y compris les médias indépendants, cela peut valoir le détour. Je me permets encore un rapide commentaire. Comment préparer une guillotine? C'est en lien avec une récente publication. C'est évidemment un titre abominable à tous égards, car ce dont il est question aujourd'hui, sans nous interdire la violence légitime pour nous opposer à la violence légale massive de l'État, mais c'est précisément d'éviter les scories et les répétitions du passé. Et la dernière référence dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est celle de la boucherie qu'a constituée la Révolution française et du génocide de classes sociales et de régions entières qui ont été perpétrées à cette occasion. Alors, mon éditeur a saisi l'opportunité du changement de Premier ministre pour faire un petit coup de pub tout à fait sympathique, en imaginant qu'avant de laisser sa place de Premier ministre à Michel Barnier, Gabriel Attal aurait dit « Surtout, lisez le dernier livre de Jean-Dominique ». Et c'est vrai que tout le plan de destruction en cours y figure noir sur blanc et référence à l'appui, c'est-à-dire que quand on fait un travail d'investigation diligent comme je m'y suis livré, eh bien on trouve effectivement toutes les pièces et tous les éléments qui nous permettent de comprendre qu'il s'agit d'un plan, d'identifier les acteurs, de voir ce qu'ils en disent, car ils ne cachent absolument rien, et donc d'avoir une vision d'ensemble de la population. Alors Gabriel Attal, lui, bien sûr, s'inscrit dans cette mouvance de confusionnement généralisé de la société, et notamment avec cette préparation à travers l'éducation nationale de déconstruction des genres, et notamment avec ses cours de lecture avec des drag queens. Heureusement, un certain nombre d'associations et d'acteurs font un très excellent travail pour faire connaître ces réalités. Ces cours de pseudo-éducation sexuelle à l'école relèvent du viol psychique et de l'incitation à la pédophilie en réalité. C'est un endoctrinement idéologique engendrant des effractions psychiques durables chez les enfants. Sophie Audugé de SOS Éducation vient de sortir un livre extrêmement intéressant à ce sujet. Heureusement, quand il y a des voix intelligentes, raisonnables, qui s'expriment avec compétence, eh bien, il y a certaines caisses de résonance possibles, y compris dans les médias mainstream. Et il faut effectivement remercier Pascal Pro et Europe 1 de lui avoir accordé un temps de parole, ce qui permet de mentionner qu'il y a une pétition en cours réunissant d'ores et déjà à peu près 70 000 signatures contre ces cours. Et en rappelant qu'avec les cours en question, on ne respecte plus une frontière fondamentale qui est celle de la différence entre les générations. Et les adultes n'ont pas, en aucun cas, en aucune manière, à parler de la sexualité des adultes aux enfants. C'est un combat fondamental pour protéger l'essentiel dans notre société. Autre initiative heureuse de SOS Éducation, une enquête sur les mesures prioritaires pour enfin redresser l'école. Celle-ci défaille complètement à fournir l'instruction de base, qui permet de construire des citoyens aptes à réfléchir, par contre les encombre avec toute une propagande extraordinairement pernicieuse, et il faut voir la place que cela occupe dans nos sociétés, comme récemment encore à Paris, la fête des associations, et bien voilà le genre de spectacle qui était donné à voir, y compris devant des familles et des jeunes enfants. « Et rappelons encore une fois la définition de l'obscène, car c'est exactement ce dont il s'agit, c'est de montrer dans la sphère publique ce qui relève de la sphère privée. Évidemment qu'un tel spectacle n'a absolument pas sa place, si ce n'est que c'est un symptôme de ce que nous dénonçons et qu'il aide, je l'espère, à faire comprendre la réalité de cette dérive absolument odieuse. Merci à Philippe Murer, économiste, de nous informer du fait que la moitié des poulets consommés en France actuellement est importée. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas garde à acheter du poulet labellisé, vous aurez le plus souvent dans votre assiette du poulet brésilien ou ukrainien qui ne répond pas aux mêmes normes sanitaires, qui est bourré de produits chimiques ou antibiotiques de toutes sortes. Et c'est comme ça qu'on abîme non seulement l'agriculture de notre pays, de nos terroirs, qu'il s'agirait de défendre, mais également notre santé. Et merci à Victor Sinclair du bon tweet français de nous rappeler, pour tous ceux qui ne comprennent toujours pas, qu'on est en train d'organiser la ruine des agriculteurs pour que toute la filière alimentaire soit entre les mains d'un nombre très réduit d'acteurs genre Bill Gates, qu'il qualifie à sa manière, et que quand l'objectif sera atteint d'avoir détruit l'agriculture française, c'en sera fini de notre santé, mais aussi bien sûr de notre autonomie alimentaire. Alors si Bruno rit, eh bien lui, Thierry Breton, grimace et pleure, car il vient d'annoncer sa démission aujourd'hui même, se disant désavoué par la présidente Ursula von der Leyen, en pleine tractation sur la composition de la nouvelle équipe. Et en fait, il a relevé que Ursula cherchait à convaincre Emmanuel Macron d'abandonner Thierry Breton, dont Macron soutenait la candidature à être réélu comme commissaire européen. Mais Thierry Breton en a profité pour dénoncer la gouvernance douteuse d'Ursula von der Leyen. Alors, bon, c'est un convaincu de dernière minute. Verity France demande comment se fait-il que cette gouvernance douteuse n'a pas gêné Thierry Breton pendant les 5 ans où il a été en fonction, et notamment qu'il n'ait pas demandé à voir les contrats des injections géniques ou les SMS correspondants. Le cercle Aristote, avec sa finesse et son ironie habituelle, se demande si Monsieur Censure ne serait-il pas censuré ? Et puis la bonne nouvelle, merci aux parésiastes de le relever, c'est que les hyènes se dévorent sans ménagement entre eux, ce qui est une bonne nouvelle et ce qui enfin est un spectacle au moins un peu réjouissant. Bon, il faut quand même rappeler que suite à ces menaces adressées à Elon Musk parce qu'il avait eu la mauvaise idée d'inviter Donald Trump à un dialogue sur X, Thierry Breton avait menacé Elon Musk en question, ce qui avait quand même soulevé une indignation certaine au sein du Congrès américain, qui avait même demandé un mandat d'arrêt contre Thierry Breton au motif de l'interférence dans l'élection présidentielle et bien sûr de la censure de la liberté d'expression. Donc bon, ceci pourrait expliquer cela, mais toujours est-il que M. Breton a complètement disjoncté après avoir reçu la plus violente fessée publique de sa carrière, puisque même la Commission européenne s'est désolidarisée des menaces de Thierry Breton, et ben voilà qu'en partant, il a publié cette image complètement surréaliste, mon portrait officiel pour la prochaine Commission européenne. Alors cela dit, relevons au passage que Zoé Sagan avait annoncé pour cet automne une crise majeure au sein de la Commission européenne et que Thierry Breton allait être dans les turbulences. Alors beaucoup de personnes me demandent mon avis quant à Zoé Sagan en disant « mais est-ce qu'il ne s'agit pas d'un mythomane ? Quelle confiance peut-on accorder à ces informations ?» Aurélien Poisson-Atlan, qui est donc le créateur de cet écrivain fictif, qui malgré tout a fait un ensemble de révélations intéressantes et passé récemment chez Éric Morillo dans l'émission Les Incorrectibles, je vous suggère de regarder cette émission. Je trouve qu'ils ont été les deux très bons et donc je consacrerai mon émission de mercredi 18 septembre à la saga de Zoé Sagan. Mais toujours est-il que ça avait été annoncé et vous voyez que ce portrait vide de Thierry Breton, Eva Vlaanderenbroek, l'activiste néerlandaise en faveur de la souveraineté des pays, a dit « Nous ne vous regretterons aucunement, sincèrement, toutes les personnes qui en ont quelque chose à faire de la liberté d'expression. » Alors cela dit, dans la foulée, Emmanuel Macron, qui lui aussi a reçu une gifle à l'occasion, a proposé Stéphane Séjourné pour remplacer Thierry Breton à la Commission européenne. Et Béatrice Rosen a réagi d'une manière que nous partageons, incroyable, nous buvons le calice jusqu'à la lie. Et oui, hallucinant, la médiocrité jusqu'au bout, Paul-Antoine Martin, il a dû s'en passer des choses sur le canapé. Et puis Péonia, bien sûr, car c'est un des motifs de la perversité, souligne qu'il y a une vraie jubilation jouissive rattachée à tous ces actes. Ce besoin de rabaisser, d'infliger le mal et l'humiliation aux Français se transforme vicieusement en surpuissance, en toute puissance diraient les psychanalystes, rien ne nous sera épargné. Et Paul-Antoine Martin va au bout de sa réflexion en interpellant Stéphane Séjourné, qui bien sûr se félicite et se dit très honoré de cette nomination, et en lui disant « Votre nomination est évidemment une honte absolue. Dans quelle démocratie un ex-amant du Premier ministre, au moins, peut-il devenir ministre des Affaires étrangères, poste déjà considérable, loin au-dessus des compétences de M. Séjourné, et maintenant commissaire européen ? Notre démocratie gît désormais dans le caniveau. Quel niveau de népotisme, de mélange des genres, sans jeu de mots faut-il pour en arriver là ? Sachez que nous, Français, ressentons une honte immense à l'annonce de votre nomination. » Mais il est vrai qu'avec l'exemple du tyran qui sévit à la tête de la France depuis des années, ben en ce qui concerne les postures honteuses et humiliantes, nous y avons été accoutumés d'une manière ou d'une autre. Et maître Fabrice Divizio se dit « Mais honnêtement, je crois qu'on a affaire à un cas psychiatrique. » Alors je le renvoie, ainsi que toute personne intéressée, aux nombreuses émissions que j'ai produites sur la psychopathologie perverse et psychopathe d'Emmanuel Macron. Mais il se dit « Le type a même enregistré une voix off pour la célébration de clôture des Jeux paralympiques. C'est de la mégalomanie qui devient dangereuse. » Non, elle ne le devient pas, elle l'est depuis longtemps, il est possédé. C'est une autre hypothèse qui n'exclut aucunement la psychopathologie.
Pour l'universel, ensemble, aujourd'hui encore. Oui, quelle histoire. Et c'est pour cette histoire, notre histoire, que nos athlètes vont à présent être décorés.
Et puis, sous l'effet probable de substances transportées par certains armateurs franco-italo-israéliens, Emmanuel Macron ne s'est pas empêché, bien sûr, de rajouter une séquence particulièrement gênante. Et oui, merci à Tribune Populaire de le relever, avec cet exhibitionniste qui nous inflige ces images absolument lamentables encore et encore. On voit qu'il n'y a plus aucune dignité dans la fonction présidentielle avec les comportements de ce président. Et nous, nous sommes là, captifs, pour regarder ce spectacle en espérant que ça finisse plus vite que prévu. Autre ignominie, bien sûr, le remplacement des vitraux de Notre-Dame de Paris, puisque l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich, et Emmanuel Macron ont annoncé que les vitraux datant de Viollet-le-Duc, miraculeusement sauvés et parfaitement restaurés, allaient être remplacés par des vitraux contemporains, ce qui est parfaitement illégal. Il y a une convention qui impose l'obligation de la préservation des éléments historiques sans altération. Une pétition a été lancée. Mais on comprend bien cette mégalomanie sans limite du tyran Macron, et Eudes de la Putassière, fidèle lèche-botte du régime, lui a apporté son soutien total à notre grand timonier qui n'a que faire de la vie des simples mortels. Gloire, gloire à notre guide lumineux. Son vitrail illuminera la cathédrale pour les siècles des siècles. Et l'on peut déjà se douter, effectivement, du genre de scènes qui nous sont réservées si tant est que nous n'arrivons pas à mettre en échec ce trublion dégénéré qui n'a aucunement sa place à la tête de l'État français. Est-il besoin de le rappeler ? Alors oui, on peut réagir comme Stéphane K en disant « On vit une époque où Raphaël Enthoven est considéré comme étant un philosophe, Caroline Fourest comme une intellectuelle ». Emmanuel Macron comme un démocrate et où défendre un peuple martyrisé est antisémite. Réveillez-moi dans 50 ans, merci. Mais peut-être qu'au lieu d'aller nous coucher, la bonne réaction est celle indiquée ici par Didier Maïsto, que je ne connais pas personnellement, mais dont franchement je trouve les avis extrêmement pertinents, avec ce qu'il faut de muscles, d'intelligence, mais aussi de finesse de la situation. Et voilà ce qu'il indique aujourd'hui même, et Dieu sait si je le rejoins, les partis nous ont trahis, les syndicats nous ont trahis, les médias ne peuvent pas nous trahir, ils sont la trahison. Ne comptons que sur nous, il faut qu'on s'organise. Je vous retrouve en ce qui me concerne mercredi 18 septembre, donc après-demain au moment de cet enregistrement, pour une émission sur la saga de Zoé Sagan et voir comment, à travers cette info-fiction, un ensemble d'informations extrêmement dangereuses pour le régime ont pu être communiquées. Mais nous nous interrogerons bien sûr aussi sur les singularités de cette modalité et ses éventuelles limites. Je vous remercie.